Bonjour et bienvenue dans cette émission du 2 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration des conflits de cinquième génération en revenant sur la question de l'attaque en cours contre l'enfance au travers des programmes de perversion sexuelle actuellement mis en œuvre dans le milieu scolaire dès le premier âge. Nous verrons au cours des émissions suivantes pourquoi il y a des cibles préférentielles des attaques de manipulation psychologique qui sont les groupes les plus vulnérables de la population, c'est-à-dire les enfants et les jeunes, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, etc. Ce qui est caractéristique. Mais aujourd'hui, nous reviendrons sur la nécessaire protection des enfants, car, comme le souligne Robert Malone, c'est le moment de nous battre. Sinon, nos enfants vont passer leur vie entière dans un technofascisme. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Alors, il n'aura échappé à personne, en effet, qu'en plus d'être des groupes à risque, parce qu'ils sont plus fragiles, nos enfants ont été la cible d'attaques absolument insensées, notamment au cours de la gestion calamiteuse de la crise Covid. On leur a infligé tout un ensemble de choses qui étaient parfaitement inutiles. Cette catégorie de la population n'était pas à risque. Aucun enfant en bonne santé n'est mort du Covid et transmettait très peu la maladie. Ça n'a pas empêché qu'on leur fasse subir à eux la charge la plus violente et la plus forte et la plus anxiogène et la plus culpabilisante à travers des messages abjects comme ceux de Gilbert Deray. Et donc évidemment qu'une chose de cette nature n'est pas anodin. Nous allons revenir au cours de cette émission sur la protection que nous avons à mettre en œuvre ici maintenant avec tous les moyens disponibles contre la sexualisation des enfants, notamment à l'école. Et je vous renvoie une fois de plus, renseignez-vous, documentez-vous à tout le travail produit, notamment par Amandine Lafargue, dont je vais citer ici quelques extraits d'un texte qu'elle a publié au mois de mars 2023, que j'avais relayé sur mon blog anthropologique, mais en vous faisant passer en même temps ces extraits hallucinants d'une émission qui a été diffusée à la télévision hollandaise montrant des petites filles exposées à la découverte de sextoys tout en prétendant que c'était absolument innocent. Et donc il faut bien comprendre que l'éducation sexuelle avec plein de guillemets ne correspond nullement, comme le dit Amandine Lafargue, aux cours de prévention et d'éducation sexuelle que nous adultes avions reçus au collège. Ces séances à l'époque relevaient de la prévention en matière de santé et avaient pour but d'aborder des sujets délicats à un âge où les adolescents, en plein changement psychologique et physiologique naturel, se posent des questions légitimes. L'éducation sexuelle, entre guillemets, comme son nom l'indique, et en réalité, celle qui est mise en œuvre aujourd'hui, une incitation à la sexualisation précoce de nos enfants. Cette pédagogie censée prévenir et lutter contre les violences sexuelles et les discriminations éduque nos enfants à ces sujets qui ne les concernent pas en raison de leur âge. Et le fameux document et tout le programme qui en découle, qui s'intitule « Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe » émanant de l'OMS, sexualise nos enfants sur le principe que les enfants sont des « personnes » entre guillemets qui, dès la naissance, auraient un droit à la sexualité et à la jouissance. Et donc, il faut vraiment mesurer que nous ne sommes pas dans ce cas de figure qu'essayent de faire croire les médias mainstream et les gouvernements de bons programmes d'éducation auxquels s'opposeraient des parents rétrogrades, mais dans une lame de fond qui vise au pervertissement et au viol de l'intégrité psychique et physique de nos enfants. Je vous en donne quelques exemples. Voilà des livres qui figuraient dans des jardins d'enfants, dans la bibliothèque de jardins d'enfants en Floride, et que le gouverneur a fait retirer. On se souvient tous de la publicité immonde de Balenciaga mélangeant l'imaginaire SM de certains adultes avec l'enfance. Voici des images d'une Pride à San Francisco, donc dans la rue, auquel des adolescents et des enfants peuvent avoir été exposés. Et donc il faut bien mesurer que nous sommes aujourd'hui dans une époque où la dépravation s'est généralisée, mais avec une intention, c'est une arme de guerre, ça n'est pas juste une licence obscène que s'accordent certains adultes, c'est quelque chose qui est encouragé et utilisé pour réaliser cette effraction du psychisme des enfants. Voilà d'autres exemples tirés d'un cours de sciences de la vie et de la terre du Collège Pasteur dans le 16e arrondissement de Paris en 3e année, Et vous voyez, ces images n'ont rien à faire dans le contenu de ces cours. Et tout ça converge dans une intention particulière. Je passe la parole à Ariane Biran dans un extrait de l'entretien qu'elle a accordé à Carl Zero, qui nous explique ce dont il est réellement question.
Une autre affaire là, qui est sortie, un rapport de mars 2023, que je vais vous, du 8 mars 2023, c'est la dépénalisation des actes pédocriminels promus dans un rapport de l'ONU en date du 8 mars 2023 sous couvert de protection des droits de l'homme. Donc en clair, l'idée que un adulte ait une attirance sexuelle pour un enfant, ce serait un penchant comme les autres, ce ne serait pas un comportement criminel. Hein. Et donc, ONU-SIDA et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans ce rapport, exigent l'application du droit international des droits de l'homme au droit pénal en recommandant la dépénalisation des délits liés, je vais citer, au sexe, à la consommation de drogue, au VIH, à la santé sexuelle et reproductive, donc on y est bien, au sans-abrisme et à la pauvreté. Et il appelle à la dépénalisation donc des relations entre adultes et mineurs à condition que ces derniers soient consentants.
Et voilà, nous sommes au cœur du sujet, donc il faut vraiment aller à la racine de ces textes de l'OMS qui ont une idéologie pédophile et la véhiculent en violant le corpus juridique international de protection des mineurs et de l'autorité parentale. Donc je vous renvoie évidemment aux productions d'Ariane Biran, Virginie de Aurorecchia, Régis Bruno, Amandine Lafargue et d'autres, mais en relevant que s'il y a une telle péjoration de la santé mentale des enfants et des adolescents aujourd'hui, c'est massif, c'est une conséquence de ces programmes et de cette licence généralisée qui ne mesure plus qu'on fait du mal aux enfants avec des choses pareilles. Et bien entendu, vent debout contre la propagande immonde des médias dont la RTBF nous a servi un exemple récemment en faisant ces amalgames détestables entre le fait d'être lucide sur ces questions et de voir le danger que courent les enfants du fait de cette idéologie avec l'extrême droite, l'antisémitisme, les théories du complot et que sais-je. Alors de nouveau, plongeons dans la réalité. Ceci est un extrait d'Evras, le programme contesté en Belgique. Et voyez que dans le programme des 5 à 8 ans, il est considéré que les enfants doivent consolider leur propre identité de genre en leur expliquant la différence entre le sexe biologique, c'est-à-dire le genre dans lequel ils sont nés, et l'identité de genre qui, elle, peut être différente. Et écoutons comment les choses sont nommées. Dès 7 ans, l'expression du genre est généralement moins forte. Les enfants ont l'impression que leur genre est bien reconnu. Ils commencent à exprimer leur transidentité plus facilement. Si les enfants ont l'impression que leur identité de genre ne coïncide pas avec leur genre assigné, le genre assigné, c'est celui qu'on vous fait croire que vous êtes du fait de vos organes génitaux à la naissance, je décode. Cela peut se manifester sous forme d'anxiété sociale, c'est pourquoi il faut bien expliquer la différence. Mais, alors, je vous cite un autre document suisse qui est le fruit de la collaboration entre ces entités, mais qui doivent être poursuivies pénalement, à mon sens. Regardez comment les choses sont décrites. Genre, ton identité de genre, c'est à quel point tu te sens plus ou moins fille ou garçon. Ton expression de genre, c'est ce que tu choisis de montrer par ta coiffure ou ton look. Si tu te reconnais dans le genre qu'on t'a assigné, que l'on t'a assigné à la naissance, on dit que tu es une personne cisgenre. Si tu ne te reconnais pas dans le sexe qu'on t'a assigné à la naissance, on dit alors que tu es une personne transgenre. Par exemple, si tu es né avec un pénis et que tu as été assigné garçon, mais que tu sais que ton identité de genre est fille, on dit que tu es une fille trans. Ton corps et tes organes génitaux ne définissent donc pas ton identité de genre. Tu es la seule personne à pouvoir ressentir et déterminer quelle est ton identité. Pour certaines personnes, c'est clair, pour d'autres, cela prend plus de temps. Ce qui est important, disent les auteurs, c'est qu'au final, tu te sentes bien avec toi-même, que tu puisses exister librement dans la société en tant que toi, et de poursuivre ton identité de genre en toute liberté. Et donc, si tu es une personne transgenre, quelles sont tes possibilités ? Il se peut que tu te sentes mal à l'aise dans ton corps. Par exemple, si tu es une fille trans, c'est-à-dire un garçon, peut-être que l'idée que ton pénis fasse une bosse sous tes habits te met mal à l'aise. Si tu es un garçon trans, c'est-à-dire une jeune fille, et que tu as des seins, peut-être que tu as envie de les cacher. Il n'y a pas de règle. Et si tu ressens de la souffrance ou de l'inconfort, il y a des ressources, et là on redirige sur des associations qui font la promotion de ce genre de délire. Tout en précisant, certaines personnes trans, mais pas toutes, choisissent de faire une transition médicale en prenant des hormones, en ayant recours à des chirurgies ou les deux, afin de modifier l'apparence de leur corps. Donc ça, ça s'adresse à des jeunes adolescents, hein. Tu as le droit d'être informé sur les options qui existent et de prendre des décisions qui concernent ton corps et à ta santé. Donc, on parle de jeunes de 13, 14, 15, 16 ans. Avec l'explication sur ce qu'il est possible de faire, il existe des traitements qui bloquent la puberté temporairement pour la retarder. Cela permet d'éviter que ton corps ne se modifie dans un sens que tu ne souhaites pas, tant que tu n'es pas tout à fait sûr de ce que tu ressens ou que tu n'as pas décidé que c'était le moment. Si et quand tu le souhaites, ton médecin peut te les prescrire. Non mais au secours ! Donc dans le processus naturel de croissance, l'enfant qui arrive à la puberté connaît un développement de ses organes génitaux et toute la croissance qui va avec, mais là on explique que si l'enfant n'est pas tout à fait confortable avec ça, il peut aller voir un médecin qui va bloquer le processus naturel par de la castration chimique et éventuellement prendre des hormones à vie pour être dans le sexe opposé. Et tout cela avec une promotion, une propagande médiatico-politique. Donc j'ai déjà mentionné cet extrait, de nouveau à la télévision hollandaise, mais la Hollande est, comme la Belgique, un des pays les plus frappés par les réseaux pédocriminels, ça n'a peut-être pas aucun rapport, où on montrait des ados, notamment ayant subi des mutilations chirurgicales, pour faire comprendre que c'était parfaitement normal, le cas échéant, d'être dans ce genre de ressenti. On sait qu'en Californie, il y a même un projet de loi visant à retirer la garde aux parents des enfants dès l'âge de 12 ans si les parents s'opposent ou ne comprennent pas ou ne vont pas dans le sens du désir de changer de sexe de leurs enfants. Heureusement, des enseignants et des parents et des avocats s'y opposent. Alors même qu'on sait, des études ne cessent de sortir, hein, et ça, elle a été diffusée par un groupe de personnes gays contre le tripotage des enfants et la pédophilie. Et ils disent, une nouvelle étude britannique confirme ce que nous disons depuis longtemps, les bloqueurs de puberté ne détruisent pas seulement les enfants physiquement, mais aussi leur santé mentale. Il faut cesser de les prescrire, c'est criminel. Je vous mets la référence du preprint si vous voulez vous pencher dessus. Et récemment, un psychiatre en chef de l'Institut Johns Hopkins a fait scandale aux États-Unis en rappelant que le transgenrisme est une maladie psychiatrique. Alors entendez-moi bien, je ne plaide pas pour la discrimination des personnes souffrant de ce désordre psychiatrique. J'ai passé toute ma vie à défendre les droits des patients, donc vous n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas, mais c'est un trouble psychiatrique. Et présenter ça comme une normalité a des conséquences incalculables. Sachant que ça émane, tout comme toutes les recherches sur la pseudo-éducation sexuelle, émane du pédocriminel Alfred Kinsey, mais qui est devenu la référence pour toute la sexologie universitaire. Donc il faut vraiment voir où on en est. C'est comme si les expériences de Mengele étaient utilisées aujourd'hui comme base de la médecine dans les facultés de médecine. Et donc, je vous renvoie à la réalité de la théorie de genre, qui est issue d'un dénommé John Money, qui était un pédocriminel abominable, à l'Institut Johns Hopkins précisément, et Jordan Peterson a récemment consacré une émission, à laquelle je vous réfère si vous comprenez l'anglais, où avec la docteure Myriam Grossman, qui est une pédopsychiatre spécialisée dans ces questions, il retrace toute cette histoire épouvantable, et notamment des jumeaux Reimer, d'où est partie toute l'expérience, avec une véritable atrocité, une boucherie qui s'est terminée en drame, mais que John Money a réussi à faire passer comme un succès éclatant et fondant toute cette théorie du genre, qui est juste délirante sur le plan scientifique et abominable sur le plan humain. Le média en 442 a récemment consacré une émission à John Money, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas quelle est sa teneur, mais je vous donne la référence, j'en produirai moi-même une prochainement. Et donc, comme l'indique ce diagramme, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que la confiance au gouvernement est inversement proportionnelle à la connaissance de l'histoire. Donc là, tout le monde dit « oui, mais l'OMS le dit, Santé sexuelle suisse le dit ». Oui, mais c'est précisément ces organisations, ces organismes qui, dans le passé, ont par exemple veillé à ce que l'inventeur de la lobotomie frontale, hein, quelque chose d'épouvantable dans les politiques de santé mentale, ait reçu le prix Nobel de médecine. Donc ça n'est pas parce que cela émane de gens qui ont le pouvoir que c'est forcément sain. Donc de grâce, documentez-vous. Et par exemple, référez-vous au colloque du samedi 13 mai, La dérive totalitaire sur les enfants, diagnostic, causes et conséquences, avec toutes les références, toutes les conférences ont été enregistrées. Alors que pouvons-nous faire par rapport à ça? De grâce, signez cette pétition. Une pétition qui émane de l'Organisation Nationale Éthique, Santé, Transparence. Protégeons les enfants. C'est un collectif de professionnels de la santé mentale et du droit qui s'est créé en réponse au déploiement dans les écoles et autres lieux socialisants des programmes dits d'éducation sexuelle ou éducation à la sexualité. Les professionnels en question appellent au respect de la dignité et de l'intégrité psychique et physique des enfants, au respect de leur enfance et de leur innocence. Leurs revendications sont les suivantes. Abolition de toute référence à une sexualité des enfants. Les enfants n'ont pas encore de sexualité. Ils en auront à la puberté. Dénonciation de la prétendue scientificité de l'éducation sexuelle et de ses conséquences vis-à-vis du bien-être psychologique, biologique et émotionnel des enfants. Abolition des textes de l'OMS et de tous leurs dérivés, s'y référant quant au contenu, concernant les droits sexuels entre guillemets de l'enfant, l'éducation sexuelle entre guillemets, l'éducation à la sexualité entre guillemets. Application du corpus juridique international existant en matière de protection des mineurs pour une protection de l'enfance digne de ce nom. Soutien intangible à une réelle protection de l'enfance dans tous les domaines. Prévention des risques, écran, accident domestique, accident de la route, drogue, violence, dont les violences sexuelles sur mineurs, bien sûr. Consolidation du bien-être psychique et physique des enfants. Instruction et apprentissage solide, lecture, écriture, logique. Épanouissement psychique et physique, sport, musique, préservation des conditions pour nourrir la joie, la créativité, l'imagination, les espoirs et les rêves, etc. Et enfin, respect intangible de la Convention internationale des droits de l'enfant qui affirme le droit et les devoirs primordiaux des parents dans l'éducation des enfants. Ce manifeste, cette pétition, ont été écrits par Maître Virginie de Aojo-Requia, le docteur Ariane Biron, normalienne et docteur en psychopathologie, la docteure Laurence Kaiser, docteur en médecine, chirurgien, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, et Amandine Lafargue, psychologue clinicienne, experte auprès des tribunaux, avec toute une liste de premiers signataires. Mobilisons-nous en signant cette pétition, en la faisant circuler. Opposons-nous à ce programme délirant et destructeur qui vise nos enfants, en n'acceptant pas de nous laisser délégitimer, injurier et stigmatiser par les étiquettes détestables des médias mainstream. C'est un endroit où la bataille se joue. Si nous arrivons à les faire reculer, et on sent qu'ils ont peur, la partie est sensible, et c'est pour ça qu'ils redoublent de propagande, parce qu'en réalité, leur position est extrêmement faible, si nous arrivons à les faire reculer, dis-je, nous aurons acquis une première victoire. Celle concernant les injections géniques expérimentales ne demande qu'à tomber, tellement le désastre est évident, et à partir de là, nous pourrons requérir le territoire. À demain pour la suite. Je vous remercie.